in the back. Earthquakes and selling cracks. All my niggas into that. You send us out, we send it back. All facts, no cap. Put my hat to the back. $100,000 in the back. Look, $11 an hour ain't enough to live.
The following is a previously broadcast program.
Alors, petite historique. En décembre 2020, à l'époque d'un confinement ou d'un couvre-feu, je ne sais plus trop, et c'est un historique un peu flou, nous avions enregistré une émission avec l'économiste Paul Rocher à l'occasion de la sortie de son livre « Gazer, mutiler, soumettre, politique de l'arme non létale ». Et aujourd'hui, nous diffusons en exclusivité un entretien que nous avons enregistré avec lui la semaine dernière pour des raisons d'agenda. Il est venu nous parler de son nouveau livre « Que fait la police et comment s'en passer ?» toujours publié chez La Fabrique. Dans le premier extrait de cet entretien que nous allons écouter, nous revenons avec lui sur l'écriture du livre et sur cette fameuse question « Que fait la police ?» Paul, comment est-ce que tu as travaillé pour ce livre ? Est-ce que c'est un besoin qui est venu après, enfin, ou pendant l'écriture de « Gazer, mutiler, soumettre » que tu avais publié il y a 2 ans et demi ? Ou est-ce que c'est un projet qui est né après, qui était là avant ?
Alors, c'est un projet qui est effectivement en lien étroit avec le livre précédent « Gazer, mutiler, soumettre » dans le sens où ce premier livre était un livre sur les violences policières, sur la manière dont la disponibilité même d'armes non létales favorise les violences policières. Et donc j'avais fait un livre sur les violences policières et j'avais l'impression qu'il y avait plus de choses encore à creuser parce que derrière les violences policières, il y a toute une institution, la police, et qu'il me semble que là, il y avait un champ qui était pas encore vraiment exploré en profondeur. En tout cas, c'est un peu comme ça que naissent les projets de livres, c'est qu'il y a une insatisfaction et constater un certain manque. Et donc, le livre là, Que fait la police, vise précisément à faire une analyse un peu plus englobante de l'institution qu'est la police.
Comment tu as travaillé ? Tu as travaillé à partir de livres et de recherches, des chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur. Et est-ce que, on ne le sent pas trop, mais c'est une vraie question, est-ce que tu as travaillé en entretien avec des policiers ?
Alors, ma manière de travailler est toujours effectivement à partir de sources scientifiques de préférence. Donc, quand on regarde un peu les notes de bas de page de mes livres, on constate qu'il y en a quand même pas mal, à peu près 400 à nouveau, dans Que fait la police. C'est à la fin du livre, donc celles et ceux qui ne veulent pas être embêtés par des notes de bas de page, ils et elles peuvent les ignorer, évidemment. Mais n'empêche, moi, c'est très important pour moi de fonder le livre dans l'état des connaissances disponibles sur la police. Donc c'est un livre qui est construit à partir de sources scientifiques principalement. Évidemment, j'ajoute une dimension analytique et je mobilise aussi pas mal de données, de chiffres sur par exemple le budget, les dépenses pour la police, les effectifs de police. Donc ça c'est plutôt des données qu'on trouve dans les grandes sources de données comme Eurostat ou aussi les données du ministère, enfin du gouvernement, quoi, les données publiques, ou encore on trouve aussi des données dans les rapports de la Cour des comptes. Donc j'ai un peu essayé d'agréger tout ça. Évidemment, il y a aussi des sources plus journalistiques, mais je n'ai pas fait d'entretien avec les policiers, par exemple. Il me semble que, d'une part, on a déjà un bon stock de connaissances en sociologie de la police ou en sciences politiques sur précisément, qui a été en quelque sorte produit à partir d'entretiens. Et d'autre part, il me semble que on est un peu sursaturé de paroles policières, en réalité, qui parlent peut-être de leur vécu, de la manière dont eux, ils voient leur propre vécu, mais on parle très peu, en fait, de l'institution policière en tant que telle. Donc voilà, c'était aussi un pari méthodologique de ne pas produire d'entretien. Et cela va de pair aussi avec une démarche plus agrégé pour comprendre vraiment les contours généraux de l'institution policière.
Alors, question qui paraît idiote, mais que je me suis posée en lisant. On entend quoi ? La police, c'est... Bon, les policiers, d'accord. Ça exclut les gendarmes. Et les CRS, on les met où ? La BAC, on la met où ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quand même une sorte de hiérarchie. Enfin, il y a plein de corps, on a l'impression, au sein de la police. Et qu'est-ce qu'on prend ou qu'est-ce qu'on écarte ?
Oui, c'est effectivement une question importante parce que la police n'est pas totalement homogène. Alors, quand je fais référence à la police dans le livre, généralement, ça englobe les policiers et les gendarmes. Quand ce n'est pas le cas, c'est indiqué comme tel. Par contre, typiquement, les CRS font partie de la police, les gendarmes mobiles font partie de la gendarme, et donc tout ça, je l'englobe dans l'institution policière, et il y a effectivement de quoi analyser en quelque sorte la police dans son ensemble, parce qu'il me semble que l'enjeu était vraiment là. Parce que typiquement, ce qu'on entend de temps en temps, c'est qu'en maintien de l'ordre, les gendarmes seraient en quelque sorte plus prudents, plus attentifs aux manifestants que les CRS.
En disant que la gendarmerie, ce sont des militaires, c'est ça ou pas ?
C'est plus le cas. Ça. La gendarmerie maintenant aussi fait partie du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, c'est une règle européenne qui justement explique qu'il ne faut pas cette distinction entre police et gendarmerie, aussi parce qu'en réalité, l'armée n'a rien à faire dans la gestion intérieure d'un pays, en tout cas du point de vue libéral. Donc la gendarmerie fait partie, en quelque sorte, fait partie du ministère de l'Intérieur. Et les distinctions de comportement, alors on les entend, mais j'en suis pas convaincu. Typiquement... Quand on pense à Rémy Fraisse, le barrage de Sivens, quand on pense à l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, eh bien à chaque fois, là on voit les gendarmes mobiles à l'œuvre et les gens qui assistent, qui étaient présents par exemple la nuit où Rémy Fraisse a été tué, c'est des gens qui disent que c'était une chasse aux lapins. Et effectivement, quand on regarde le ratio entre le nombre de manifestants et le nombre de grenades utilisées, il y avait une grenade par militant écologiste cette nuit-là. Donc ça permet pas vraiment de dire que les gendarmes font preuve d'une retenue plus importante. Et c'est pareil pour Notre-Dame-des-Landes où ils étaient encore plus où ils avaient encore plus recours à leurs armes. Donc de ce point de vue-là, cette distinction entre gendarmerie mobile et CRS, je ne sais pas si elle est fondée. En tout cas aujourd'hui, cette distinction, elle me semble plus pertinente du point de vue du recours à la violence, et donc la violence qui font subir à celles et ceux qui manifestent, par exemple.
Alors, ton titre, il est un peu double. Il y a cette phrase un peu commune, mais que fait la police, dans le sens, ils sont pas là alors qu'ils devraient intervenir, mais où est-elle, que font-ils, quoi, que fait la police ? Et il y a aussi ce qu'on peut entendre en manif, mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Enfin, cette stupeur de voir l'intervention de la police, mais d'un point de vue très concret, très pragmatique. Elle fait quoi, la police ? Elle s'occupe des vols, elle enregistre des plaintes, elle enregistre des mains courantes, elle...
Alors, il y a effectivement cette image très, très répandue qui consiste, et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a résumé comme tel, il n'y a pas si longtemps, il disait les policiers courent derrière les voyous. Et c'est un peu ça l'idée que tout le monde, ou quasiment tout le monde, a à l'esprit quand on pense à la police. Et c'est précisément là un des mythes les plus importants, les plus fondamentaux qui existent autour de cette institution. Parce que le livre Que fait la police, il est en quelque sorte conçu comme une manière de répondre à un certain nombre de mythes, de préjugés, en quelque sorte conception stéréotypée sur la police qu'on a en positif et qui en réalité ne correspondent pas à la réalité. Et donc cette idée que la police court derrière les voyous, en réalité les scientifiques savent très bien, les chercheurs savent très bien que ce n'est pas le cas. Et pour donner un peu une idée concrète de ce que fait un policier dans son quotidien au travail, on peut par exemple, typiquement, il y a une série d'études sur le quotidien d'un policier, et il s'avère que les affaires criminelles, c'est entre 10 et 1% de son temps. Le reste du temps, il fait de la régulation de la circulation, du travail administratif, parfois des conflits de voisinage, du contrôle des migrants, du contrôle politique, manifestations. Donc c'est ça en réalité l'essentiel, l'immense majorité des tâches remplies par un policier. Donc c'est la criminalité, elle est extrêmement marginale là-dedans. Et en plus, il s'avère que la recherche sur la police nous montre aussi que les stratégies policières qui visent à lutter contre la criminalité, donc quand les policiers passent réellement leur temps à lutter contre la criminalité, en réalité, ça n'a pas d'effet. Donc, ils ne luttent pas vraiment contre la criminalité. Donc, les stratégies policières n'ont peu ou pas d'impact sur l'évolution de la criminalité, puisque tous ces actes considérés comme déviants, en réalité, sont déterminés par des facteurs socio-économiques qui sont évidemment totalement en dehors de ce que fait la police. Donc la police ne court pas derrière les voyous précisément.
Et toi, tu relis le fait que, bon, en gros, il y a en effet une déconstruction du mythe parce que finalement la police n'assure pas la sécurité des gens comme on l'entend très souvent. En tout cas, c'est pas vraiment ce qu'elle accomplit. Et tu relis ça à ce qu'elle est, c'est-à-dire que ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, mais dépend en grande partie de ce qu'est la police aujourd'hui.
Oui, ce point me semble très important. Alors, le raisonnement du livre, c'est que, dans un premier temps, on s'intéresse au mythe autour de la police. Donc, évidemment, il y a le mythe que la police court derrière les voyous. Il y a aussi
en plus, ça dépend de quel voyou, parce que ce n'est pas l'évasion fiscale, quoi. On comprend bien que c'est ceux qui ont volé un braquage de banque ou qui ont volé, je ne sais pas moi, dans un supermarché, quoi.
Oui, en plus, bah, tu fais bien de préciser parce que évidemment, l'évasion fiscale ne rentre pas du tout dans les préoccupations. En tout cas, quand on regarde les chiffres de l'évasion fiscale, on voit très bien que cette activité pourtant illégale peut continue depuis des dizaines d'années. Mais donc voilà, la police, dans son ensemble, ne court pas derrière les voyous, elle ne lutte pas contre la criminalité. Un autre mythe, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus aussi, c'est cette idée que la police manquerait de moyens, chose qui n'est évidemment pas vraie. Et donc, à partir de cette déconstruction de mythes, se pose évidemment la question, bah, qu'est-ce qu'elle fait alors ? Si elle ne court pas derrière les voyous, bah, qu'est-ce qu'elle fait ? Et donc, là, on peut développer dans plusieurs directions. Je parle dans le livre notamment du racisme institutionnalisé, du sexisme institutionalisé, qui font partie de ce que fait réellement la police. Mais pour chercher un peu plus profondément même, il me semble que, en quelque sorte, ce que fait la police est étroitement associé à ce qu'elle est. Il faut donc s'intéresser à la raison d'être même de la police. Et ça, on peut le faire par un détour un peu historique, qui est justement un des chapitres du livre. Et dans ce chapitre-là, eh bien, j'essaie de mettre en avant plusieurs choses. La première chose, c'est que le terme, le mot police, il existe depuis longtemps, depuis plusieurs siècles, mais il faut un peu se méfier de cette continuité lexicale, puisque ce que nous entendons aujourd'hui par police ne correspond pas à ce que la police était au XVIIIe siècle, par exemple. Au XVIIIe siècle, comme le disait Foucault, la police englobe tout. Elle s'occupe de plein de choses. Elle s'occupe de la voirie, de la santé publique, de la mendicité, de l'éclairage public.
Et c'est quel type de personne qui assure ces missions ? C'est des gens de milieu populaire ou pas du tout ?
Ça peut être un peu tout le monde. C'est ça aussi qu'on a peut-être un peu du mal à comprendre aujourd'hui, que ça peut être toute une série de personnes. En réalité, c'est en quelque sorte le village précapitaliste ou la communauté précapitaliste en France. S'autogère dans la mesure où plein de gens sont un peu impliqués, ensuite certains un peu plus. C'est notamment ceux qui remplissent aussi une fonction de protection pour les nobles et qui protègent les biens des nobles, mais qui font ça juste aujourd'hui on dirait à temps partiel. Donc c'était une activité qui est un peu diffuse, certains l'exercent un peu plus que l'autre.
Mais ils sont rémunérés ou c'est du bénévolat ?
Alors ceux qui travaillent pour les nobles, eux, ont une rémunération. Pour les autres, c'est moins clair. Mais ce qui me semble fondamental ici, c'est que ça peut être un peu tout le monde. Et les tâches de cette gestion de l'ordre pré-moderne sont très très vastes aussi, de sorte à ce qu'en réalité, cette idée de gestion de l'ordre se confond avec l'administration municipale. Donc c'est presque un autre terme pour dire gouvernement, quand on dit police dans la France pré-capitaliste. Et donc tout ça va changer très très fortement, parce qu'il y a évidemment une continuité historique, il y a toujours des gens qui ont exercé en quelque sorte une fonction répressive, utiliser la violence, mais ce qui change fondamentalement avec l'avènement de la police. moderne, c'est qu'au 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle, la police devient une institution distincte de la société. Elle est du coup composée de professionnels qui occupent la fonction de police à temps plein, ils y font carrière, il y a une gestion aussi des formations, donc c'est une institution à part entière et qui s'inscrit pleinement aussi dans l'état moderne qui voit le jour en même temps. Donc là, on n'est plus du tout dans cette idée, tout le monde participe un peu, certains un peu plus, non, il y a juste une partie bien spécifique de la population qui du coup transforme cette gestion de l'ordre en métier et donc remplit ce métier selon des codes et un encadrement bien spécifique. Et si ça se développe au 19e siècle, c'est pas le hasard total. C'est que, eh ben, au cours du 19e siècle, la France, évidemment, fait l'expérience de bouleversements profonds puisque c'est l'avènement du capitalisme. Et la police ne coïncide pas seulement temporellement avec le capitalisme, et il s'articule très étroitement avec cette nouvelle société. Et donc on pourrait se dire, bah oui, parce qu'il y a plus de criminalité sans doute. Et ce que nous disent les historiens spécialistes de la police, c'est que cette période ne correspond pas du tout à une augmentation de la criminalité. Le fait marquant de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est précisément, eh bien, l'industrialisation, la formation d'une classe ouvrière. Donc on a des ouvriers qui sont concentrés dans des usines et qui, par ailleurs, ont des conditions de vie très très difficiles. Et donc, ce qu'on observe, c'est pas seulement la constitution objective d'une nouvelle classe sociale, celle des travailleurs salariés, c'est aussi que cette classe sociale, eh bien, s'associe dans le cadre de syndicats. Évidemment, c'est la période de la CGT qui se renforce non seulement du point de vue du nombre d'adhérents, mais qui gagne aussi en combativité pour justement revendiquer des conditions de vie et de travail meilleures que ce que propose le patronat. Et en réalité, la police va être créée pour prendre pour cible cette partie-là, l'immense majorité de la population, qui est considérée comme déstabilisante pour l'ordre établi. Donc la naissance de la police est intrinsèquement liée au capitalisme et plus précisément à l'existence, en quelque sorte, enfin à la progéniture du capitalisme qui menace le capitalisme, à savoir donc les travailleurs. Donc c'est eux qui sont visés et c'est pour ça qu'on a aussi, dans les années 1870-80, quand la police se développe en tant qu'institution, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a déjà un premier débat sur les violences policières. Parce que précisément, le maintien de l'ordre est extrêmement violent. Et c'est déjà à ce moment-là aussi que les dirigeants de la police, les décideurs au gouvernement, mettent en avant l'idée que face aux morts en manifestation, face aux personnes blessées en manifestation, il y aurait des changements de la doctrine du maintien de l'ordre. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement aussi. Dernièrement, à la suite des Gilets jaunes aussi, le ministère de l'Intérieur a annoncé des changements dans la doctrine. Et ça, à nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis 150 ans. On nous parle de changer la doctrine pour, en quelque sorte, assurer un maintien de l'ordre plus humain. Sauf qu'en réalité, les choses ne changent pas fondamentalement parce que, précisément, la raison d'être de la police, c'est de réprimer les travailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que, dès le début, la police a aussi une très mauvaise réputation dans la population. Au point où, à la préfecture, on s'interroge sur la bonne manière de faire aimer la police. Donc, il s'agit de convaincre la population du bien fondé de l'existence de la police. C'est une tâche assez difficile puisque au quotidien la police elle exerce des violences contre une bonne partie de la population, et c'est donc à ce moment-là où il s'agit de faire aimer la police dès le début que des liens vont être créés entre le ministère de l'Intérieur et certains auteurs, certains journalistes. C'est à ce moment-là que le genre policier, le roman policier naît. Donc toute la production de fiction autour de la police, en fait, est aussi consubstantielle à l'institution policière elle-même. Donc ils ont bien compris, les dirigeants au gouvernement, au sein de la police, que pas face en quelque sorte à cette contestation de la police, parce que la police est violente avec la population. Il s'agit en quelque sorte de s'engager pleinement dans la bataille des idées, et c'est une bataille qui est menée avec quand même plutôt pas mal de succès, puisque à 150 ans plus tard, les mythes autour de la police, les policiers courent derrière les voyous, tout ça semble toujours convaincant à une partie, à une majorité de la population, même si la popularité de la police est en baisse assez nette aujourd'hui. Mais on voit quand même que là, on a vraiment des continuités historiques. Donc, ça plaide en quelque sorte, c'est un argument supplémentaire qui plaide en faveur de l'importance de s'intéresser à la raison d'être de la police, parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans la même configuration.
Il y a pas mal de choses intéressantes dans ce que tu dis, et notamment, ça me fait penser à toutes les séries télévisées qu'on a eues dans les années 90, Julie Lescaut, Navarro, Cordier, Jugé, Flic, en fait, qui participent aussi à cette construction du mythe, au fait d'entretenir ce mythe. C'est assez amusant parce que tu as utilisé quand même à de nombreuses reprises soit le verbe réprimer, soit le substantif répression. Et en fait, justement, lié à ce mythe, on a l'image quand même d'un lien entre police et justice. Et là, on se rend compte, en t'écoutant et en te lisant, que la justice, elle est très éloignée du champ de la police, et que le but, c'est, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, le maintien de l'ordre. Et au départ, on pense l'ordre public, c'est-à-dire en gros, pas trop débordement, pas trop de casse. Et finalement, c'est l'ordre beaucoup plus important, beaucoup plus, qui serait supérieur et descendant, qui est en fait l'ordre établi, qui permet au capitalisme de se maintenir.
Oui, effectivement, il s'agit de l'ordre qui fait référence au fonctionnement de toute une société entière. Et donc, effectivement, la justice, elle est très loin dans cette histoire. Mais n'empêche, cette idée que la police court derrière les voyous, elle est extrêmement puissante, aussi parce qu'il existe une sorte d'effet placebo. Dans une situation où quelqu'un subit une violence ou une agression, souvent, en réalité, cette personne est assez démunie par rapport à la situation. Donc, là, dans cette situation-là, il peut être rassurant de penser qu'on peut appeler quelqu'un qui va peut-être pouvoir résoudre la situation, rétablir, en quelque sorte, déjà une injustice générée. Donc, la police, en quelque sorte, elle rassure aussi la population parce qu'elle offre la possibilité de faire quelque chose dans une situation où l'alternative, c'est de ne rien faire, de subir en silence, ce qui, évidemment, quand on vit une injustice, une agression, peut être vécu comme extrêmement insupportable. Donc, c'est aussi sur ce ressort-là que se joue, en quelque sorte, cette attitude collective par défaut, selon laquelle la police serait là pour assurer la sûreté de toute la population. Et évidemment, la police ne le fait pas, et elle n'est pas en mesure de le faire, parce que précisément la criminalité est déterminée par autre chose, et les policiers en réalité n'interviennent pas là-dessus. Voilà.
Alors, vous l'avez reconnu, je pense, c'était la marche impériale, extrait de Star Wars et composée par John Williams. Alors, pourquoi cette musique-là? Parce que si vous fréquentez un peu les manifs parisiennes, vous avez peut-être entendu les manifestants et les manifestantes chantonner cet air lorsqu'il y avait des percées de rangs de CRS dans la foule. Et alors, petite anecdote, puisqu'on en est à parler de ça, la dernière manifestation, la fin octobre, pour la défense du pouvoir d'achat et des salaires, pas celle de Mélenchon, l'autre intersyndical, interprofessionnel, il y a eu une percée comme ça de la police où les gens ont chanté ça et en fait on se demandait pourquoi est-ce qu'il y avait comme ça trois rangées de CRS qui avançaient pour devancer la foule. Bon, en fait c'était pour protéger les vitrines de Mercedes-Benz. Voilà. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front. Ce soir nous parlons donc CRS, BAC, gendarmes, nous parlons police puisque nous diffusons un entretien que nous avons enregistré la semaine dernière pour des raisons d'agenda avec l'économiste Paul Rocher, qui a publié aux éditions La Fabrique « Que fait la police et comment s'en passer ?». Dans ce second extrait que nous allons écouter maintenant, après avoir parlé de ce que faisait la police, nous nous attardons sur les hommes et les femmes qui ont fait le choix de ce métier bien particulier. Après, tu disais donc qu'elle s'est créée en opposition à la classe ouvrière, à la classe des travailleurs, mais ils viennent d'où? De quel milieu social les policiers? Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que ça a été toujours dans une sorte de petite classe moyenne? Ou est-ce qu'il y a une évolution au fil du temps entre 19e et aujourd'hui?
Alors, il y a dans un premier temps, quand la police moderne existe déjà, il y a une sorte de vestige un peu pré-moderne, selon lequel, pour devenir policier, il peut être utile d'avoir d'abord travaillé un certain nombre d'années dans l'armée. Sauf que ces policiers issus de l'armée ont en réalité une très mauvaise réputation. On leur reproche leur inconduite, leur incivilité, leur goût pour l'alcool. Et ce qu'on voit derrière tout ça, en réalité, c'est que ces policiers-là sont en réalité incapables de gérer la complexité de la société moderne. C'est pour ça que précisément une institution distincte va naître, la police, avec des formations, avec un encadrement des carrières, où du coup les exigences vis-à-vis du policier deviennent aussi de plus en plus importantes. Donc on a des examens, des formations, et il se trouve que a priori, c'est vrai que les policiers viennent plutôt de la classe ouvrière, c'est les familles populaires qui fournissent a priori la plupart des policiers, en tout cas ceux qui sont en bas de l'hiérarchie, et c'est quelque chose qui persiste assez largement au cours du XXe siècle, mais qui change ces dernières décennies. Donc il y a plus d'enfants de cadres qui sont par exemple policiers aujourd'hui, ce qui va de pair aussi avec une revalorisation salariale et statutaire du travail de policier, donc c'est plus attirant. Donc en quelque sorte la proportion de fils ou de filles d'ouvriers, elle diminue. Donc on a cet élément-là. En même temps, on voit aussi que d'ailleurs le niveau d'éducation formelle augmente chez ces policiers. Il y a plus de policiers qui ont un bac ou un diplôme du supérieur. C'est maintenant une proportion très substantielle. Mais il me semble qu'il faut faire attention aux conclusions qu'on peut tirer à partir des origines sociales des policiers, parce qu'en réalité, un autre renseignement que nous fournit la recherche sur la police, c'est que en réalité, les policiers ne sont pas représentatifs de la société. C'est pas un échantillon de la société dans toute sa diversité. La police attire des personnes très spécifiques. Un premier élément très important, c'est que, en réalité, parmi les personnes qui envisagent, qui veulent devenir policiers, on a une majorité qui a une conception purement répressive de son potentiel futur métier. Pour le dire un peu plus simplement, on pourrait dire que la police attire des gens qui ont un goût pour la violence. Donc ce n'est pas déjà tout le monde.
Ouais, c'est ça, c'est pas du tout le discours qu'on peut entendre. Nous avons les enfants, c'est rendre justice, la veuve, l'orphelin, je veux être le justicier, etc. C'est vraiment, je veux casser du manifestant ou taper sur des gens, c'est ça.
Pour une majorité d'entre eux. Alors, il y en a d'autres, c'est un raisonnement statistique, il y en a d'autres qui sont animés par d'autres motifs, mais on a une majorité qui est comme ça. Et déjà là, donc, on a en réalité des gens qui ne correspondent pas vraiment au reste de la société de ce point de vue-là, dans leur rapport à la violence. Et ensuite, on a une deuxième étape, Et c'est pour ça que j'insiste aussi beaucoup sur l'institution policière, parce qu'en réalité, une fois qu'on est dans l'institution, une fois que commence ce qu'on appelle la socialisation professionnelle, où on apprend les gestes du métier, en réalité, on apprend aussi la vision du monde de l'institution policière. Donc, toutes les personnes qui sont en train de devenir policiers, qui suivent la formation initiale, vont pendant cette formation initiale aussi absorber la vision de la société, du reste, enfin des autres policiers déjà présents, et donc la vision de l'institution. Donc l'institution, en quelque sorte, s'impose à l'esprit du policier individuel. Et donc, c'est là qu'on a donc un deuxième moment après, en quelque sorte, l'envie de devenir policier. Il y a le moment de devenir policier concrètement, d'être dans l'institution, et c'est là que se transmet notamment une idée comme celle de la citadelle assiégée. C'est une expression qui vient de la recherche, mais qui a été reprise aussi par des policiers récemment, et qui renvoie à l'idée que les policiers se vivent comme dans une citadelle assiégée. Et donc, on peut se poser la question, mais par qui est-ce qu'ils se sentent assiégés? Et la réponse, c'est le reste de la population. Donc, il y a déjà là, au minimum, une méfiance vis-à-vis du reste de la population, voire une hostilité ouverte. Et cette idée d'hostilité ouverte, elle va être confirmée, typiquement, par le fait que l'institution policière entretient le sexisme, entretient le racisme, se fait preuve aussi d'un mépris très important vis-à-vis, par exemple, des manifestants. Donc ça explique pourquoi tous ces publics que je viens d'énumérer subissent aussi en particulier un traitement discriminant de la part de la police.
Il y a un chiffre que je trouve assez parlant et qui en même temps est stupéfiant, c'est... Alors en plus, on voit l'évolution entre tes deux livres. Là, on est à 74% de policiers ou policières qui votent Front National. Alors qu'avant, il me semble que ça dépassait pas les 63-64% dans Gazé, Mutilé, Soumette, avait une fourchette assez large entre 47 et 63 ou quelque chose comme ça. Et là, alors je pense qu'il y a eu l'élection présidentielle, le fait qu'il y ait eu Zemmour, etc. Mais on se retrouve quand même avec un score ultra élevé du Front National. Là, on se dit heureusement que c'est pas, enfin, la société n'est pas leur image, mais c'est quand même terrible, quoi.
Alors, je te remercie pour la lecture très attentive des deux livres, parce qu'effectivement, j'avais pas fait le lien comme ça, mais c'est vrai que il y en a un, le premier est paru en 2020, le deuxième en 2022, et effectivement, le chiffre du vote d'extrême droite chez les policiers a substantiellement augmenté. Alors, il se trouve que fait la police a été, la rédaction a été terminée bien avant l'élection présidentielle. Donc c'est même pas l'impact en fait des élections présidentielles et de la dernière campagne et l'influence de Zemmour et l'amplification de Le Pen et de Zemmour. Tout ça en fait n'est pas pris en compte. Et pourtant on a ces chiffres qui sont très élevés. Et évidemment ça pose un peu la question de comment ça se fait, d'où ça vient. Et il me semble que pour comprendre ça, eh bien, on peut, par exemple, revenir sur cette histoire, sur ce constat de racisme institutionnalisé dans la police. Et là, on a une étude très importante sur la situation française qui nous montre que les Arabes et les Noirs, lors de contrôle d'identité, ont un risque beaucoup, beaucoup plus élevé que le reste de la population. Donc, c'est eux qui subissent les contrôles d'identité. Contrôles d'identité qui, dans leur immense, immense, immense majorité, visent des personnes qui n'ont strictement rien à se reprocher. Et donc, on a cette étude-là qui souligne qu'il y a systématiquement un comportement discriminant vis-à-vis les personnes non blanches. En France, donc les policiers visent explicitement ces personnes-là, et ça de manière récurrente, régulièrement, qui conduit donc les auteurs de cette étude à parler d'un racisme institutionnalisé dans la police française. Donc il y a là le constat, et ensuite, il me semble important de bien développer ce que ça veut dire, un racisme institutionnalisé. Racisme institutionnalisé, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a en quelque sorte un racisme inconscient. Donc on n'a pas besoin d'être a priori et de manière convaincue. On n'a pas besoin d'être raciste pour avoir un comportement raciste en tant que policier. Parce que ce que transmet l'institution vis-à-vis des policiers individuels, c'est que être un bon policier, c'est de contrôler plus certains que d'autres. Et donc ça, c'est intériorisé par les policiers, et donc dans leur quotidien, même de manière tout à fait inconsciente, eh bien, ils vont plus contrôler les populations non blanches. Et donc, ils peuvent, par ailleurs, avoir un ami noir ou je sais pas...
Ou même être noirs eux-mêmes, puisqu'il y a quand même des policiers, des policières qui sont non blanches, quoi, ou non blancs.
Exactement, ou être non blanc eux-mêmes. Ce qui prime, c'est l'institution policière. C'est elle qui façonne le comportement des agents qui travaillent en son sein. Et donc... Même si on n'est pas raciste au départ, l'institution policière va façonner le comportement des agents de sorte à produire des comportements discriminants. Et alors, là, on rencontre une chose assez surprenante, parce qu'il y a eu effectivement des mobilisations contre les violences policières, des mobilisations aussi contre le racisme policier plus spécifiquement. Et pendant longtemps, les gouvernements ont juste fait comme si ça n'existe pas. Et puis, il y a eu cette interview d'Emmanuel Macron dans Brut, où il a reconnu l'existence, il a reconnu l'existence de violences policières tout en rétropédalant par la suite. Et il disait notamment à ce moment que, étant donné que dans la société, il y a du racisme, ce n'est pas surprenant qu'il y ait aussi du racisme chez les policiers. Donc là, on retrouve un peu à nouveau cette idée que les problèmes de la police, en réalité, ce seraient des problèmes qui sont pareils dans le reste de la société. Ce serait à nouveau l'idée que la police serait un simple reflet de la société. Or, si on compare ces propos à ce que je viens de développer sur le racisme institutionnalisé, eh bien, il s'avère qu'évidemment, ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Il faudrait quand même ajouter aussi que, même si c'était vrai, même si les policiers n'étaient pas plus racistes que le reste de la société, eh bien, ce serait déjà un problème assez immense dans un pays qui promeut l'égalité et qui promeut donc le traitement égal de toutes les personnes qui y vivent. Donc, il y a ce premier fait-là. Donc, ça ne suffit absolument pas d'avoir une police qui est à l'image d'une société raciste, parce qu'elle doit être meilleure. Et en plus, cette condition minimale, elle n'est même pas remplie, puisque l'institution policière en tant que telle génère du racisme.
Alors, tu l'as évoqué au début de l'émission, cette idée qui a été véhiculée notamment par des sociologues, mais que la police est elle aussi en souffrance, comme d'autres fonctionnaires, comme l'hôpital public, comme l'éducation, parce qu'il y a un manque cruel de moyens, autant du point de vue des véhicules, des commissariats, des équipements des commissariats, que du nombre de personnes, enfin manque de personnel en fait. Et toi, ce que tu affirmes, c'est l'exact inverse, c'est qu'on n'est pas du tout dans cette dimension-là de manque de moyens. En fait, la police peut très bien fonctionner, elle est largement dotée.
Ce point me semble crucial, parce qu'on entend régulièrement, effectivement, que la police manque de moyens, qu'elle subit l'austérité comme le reste du service public. Et donc, c'est une affirmation qui est très, très répandue. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'elle n'est jamais démontrée. Donc elle est juste affirmée, c'est une croyance en réalité. En tout cas, tant qu'on ne démontre pas cette affirmation, ça reste une croyance. Et donc, voilà, j'étais curieux. Il se trouve qu'évidemment, en tant qu'économiste, j'ai un petit goût pour les chiffres. Et donc, j'ai un peu regardé les dépenses publiques pour les services de police, ça s'appelle comme ça, dans le langage statistique. Et donc, j'ai produit un petit graphique assez facile à interpréter dans Que fait la police, qui retrace la courbe des dépenses publiques pour la police depuis 1995, donc sur les 30 dernières années. Voilà, c'est ça, les données disponibles. Et ce qu'on voit, c'est que sur cette période, sur les 30 dernières années, les dépenses pour la police ont augmenté de 35%. C'est déjà une augmentation assez notable en tant que telle. Elle a grossi de plus d'un tiers. Et pour prendre un peu la mesure de ce que ça signifie exactement, c'est cette augmentation de 35%, on peut aussi regarder la courbe de l'éducation, par exemple, les dépenses pour éducation. Et là, l'augmentation, elle est autour de 17-18%. Donc c'est beaucoup plus faible et surtout les dépenses pour la police sont beaucoup plus élevées. Enfin, l'augmentation des dépenses pour la police est beaucoup plus forte que l'augmentation générale des dépenses de l'État, de sorte à ce que la part du budget public dédié à la police, elle est en augmentation très très forte.
Et il y a aussi le fait que, parce que l'éducation, on peut dire que les dépenses augmentent parce que aussi les effectifs augmentent, enfin le nombre d'élèves augmente, alors que la criminalité en France reste très faible.
Alors ça, c'est effectivement, ça c'est en quelque sorte le deuxième temps. Dans un premier temps, on constate qu'il y a eu très forte augmentation de la police, il a pris un poids beaucoup plus important numériquement et aussi politiquement d'ailleurs. Et ensuite, on peut s'interroger sur le besoin en quelque sorte de cette dépense. Et il se trouve que la France, en réalité, depuis 30 ans, se caractérise par une délinquance stagnante, voire en léger déclin. Donc il n'est pas, la France n'est pas... Parce qu'il y a eu un débat sur le prétendu ensauvagement de la France. Et la réalité, elle est tout autre. C'est que depuis 30 ans, c'est un pays assez tranquille, qui ne devient pas plus dangereux, voire qui diminue en dangerosité. Et pour établir ça, évidemment, il ne faut pas prendre les statistiques produites par le ministère de l'Intérieur. Parce que les statistiques produites par le ministère de l'Intérieur sur l'évolution de la délinquance sont totalement inutilisables. Le ministère change régulièrement de méthode pour recenser les actes délinquants, de sorte à ce qu'en réalité, on ne peut pas comparer deux moments différents dans le temps parce qu'on a compté les chiffres de manière différente. Donc c'est incomparable, donc ça ne sert à rien. Et pour donner un peu une idée de la manière dont procède le ministère de l'Intérieur, c'est comme si la France, elle recensait chaque année sa population pour ensuite avoir un chiffre sur l'évolution démographique. Et donc, la France, pour rester dans l'exemple, elle recense la population et d'une année à l'autre, elle décide d'inclure la population belge dans son recensement. Et après coup, on dit « Ah, c'est vraiment curieux, ça a augmenté ». Bah oui, c'est logique parce qu'on a changé de méthode, on a pris en compte aussi la population belge. Et c'est de la même manière que procède le ministère de l'Intérieur pour comptabiliser les actes délinquants. Donc les chiffres du ministère sont inutilisables. Heureusement qu'il y a aussi une source scientifique, c'est ce qu'on appelle les enquêtes de victimation, où là on peut avoir effectivement un reflet fidèle de la situation en matière de délinquance. Et donc là on voit qu'il y a stabilité de manière agrégée. Et cette stabilité, elle est d'autant plus intéressante qu'il y a un poste qui augmente très fortement, c'est les violences que subissent les femmes de la part des hommes. Et donc, on a là une augmentation très forte, ce qui, à chiffre agrégé constant, signifie que les autres actes déviants sont en baisse notable. Bref, on a une stabilité de la délinquance, et pourtant, les moyens pour la police sont en augmentation. Donc on a là un décalage assez important qui interpelle. Et tu as évoqué la situation de l'enseignement. Eh bien, là, la situation est tout autre. Les moyens n'augmentent pas très rapidement et la part de l'enseignement dans le budget public baisse. Pourtant, on a plus d'élèves. Donc, il y a plus de besoins. Donc, c'est en quelque sorte la logique inverse. Donc, on pourrait même, pour schématiser, ce que fait la France, c'est de remplacer l'enseignant par le policier. Donc, telle est la situation aujourd'hui qui, évidemment, interpelle. Et ça, notamment au regard de ce qu'on a dit précédemment, que la police ne lutte pas contre la criminalité. Et donc, il se trouve que, contrairement au reste du service public, eh bien, la police n'a pas subi l'austérité. Au contraire, depuis 30 ans, eh bien, la police, c'est un peu l'enfant chéri de tous les gouvernements qui se succèdent. Et évidemment, ce n'est pas non plus sans lien avec la société néolibérale, la distribution des inégalités. Donc on revient un peu à la raison d'être initiale de la police.
Et où va l'argent? Dans quoi? C'est-à-dire que, OK, les effectifs augmentent, donc il y a plus de policiers et de policières à rémunérer. Alors on a vu récemment, ça fait 2 ans qu'ils ont changé les voitures. Mais quand on va dans un commissariat, on se retrouve quand même avec des ordinateurs qui ont l'air dans un état lamentable et qui doivent dater de 2000, des murs qui sont sales, ne parlons pas des cellules de garde à vue ou des cellules de dégrisement. L'argent va où? Dans les équipements? Dans les armes non létales, par exemple ou
Alors, il y a une première tendance qui est celle des effectifs. Donc la police ne manque pas du tout d'effectifs. C'est pareil, les effectifs sur les 30 dernières années ont augmenté à peu près de 30%, de sorte à ce que maintenant, depuis 2015, chaque année, correspond à un nouveau record historique du nombre de policiers en France. Et si on rapporte les policiers, le nombre de policiers à la population, il se trouve qu'aujourd'hui, la France a plus de policiers que la RDA en 1962. Donc cette comparaison, elle fait un peu mal, mais ça, voilà, c'est quand même assez parlant, il me semble. Donc on a effectivement beaucoup plus de dépenses pour rémunérer tous les policiers, toutes les policières. Et ensuite, en termes d'équipement, on a une augmentation aussi assez nette, et ça concerne à la fois l'habillement, les moyens de protection, les véhicules. Tu as mentionné les véhicules neufs, mais aussi évidemment les armes et les munitions. Donc c'est quand même tout ça. Et en même temps, il y a aussi des rénovations de bâtiments qui ont été engagées à plusieurs reprises. Donc de ce point de vue-là, en réalité, c'est une amélioration assez globale. Ensuite, j'ai pas la réponse précise pour certains commissariats ou pour l'entretien de certains commissariats. Alors, si je prends ce que tu me dis, on peut déduire que les fonds ne servent pas à améliorer l'accueil des personnes qui se trouvent dans les commissariats. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, du côté de l'armement, on a une augmentation assez notable. Rien que sur les années de 2012 à 2017, donc le quinquennat Hollande, les achats d'armes non létales ont augmenté de 75%. Donc c'est quasiment un doublement en seulement 5 ans. Donc là, on a évidemment des dépenses assez importantes, mais bon, les armes non létales, en réalité, c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher. Donc, pour résumer, en quelque sorte, l'argent, il est largement disponible. Si l'accueil en commissariat est mauvais, c'est sans doute que ce n'est pas pour ce poste-là que les dépenses sont réalisées, mais dans l'ensemble, l'institution se porte extrêmement bien. On a aussi eu non pas seulement une augmentation du nombre de policiers, mais aussi des augmentations salariales assez conséquentes pour les policiers qui, depuis une dizaine d'années, sont bien plus rémunérés que d'autres fonctionnaires de la même catégorie. Donc ça aussi, ça joue. J'ai parlé tout à l'heure de la revalorisation salariale. Bah, là, on la trouve très très clairement.
C'est un flic qui n'a pas le moral.
Il a bien dit ceci.
Tant de mois qu'il se donne du mal.
Et qu'il en fait aussi.
Il en envoie du monde à l'hosto. Il fait bien son boulot. Mais ça plaît pas à sa hiérarchie.
On le trouve trop gentil.
Il tape sur beaucoup de gens, mais c'est pas violent.
Un œil, une main en moins, c'est pas bien méchant.
C'est des chamailleries selon le président.
Ça s'appelle des câlins pour le préfet l'allemand.
Il tape sur beaucoup de gens, il se donne un mal de chien.
Il tape sur beaucoup de gens, il se donne un mal de chien.
Il voit jamais ses œuvres au JT TF1.
Il voit jamais ses œuvres au JT TF1.
Il entend davantage Castaner d'Armanin.
Il entend davantage Castaner d'Armanin.
Des violences policières, il n'y en a pas. Point.
Avec ses collègues sur WhatsApp,
il peut enfin se lâcher.
Il y a aussi quelques fautes de frappe,
mais c'est pour rigoler.
Des mots doux sur les noirs, les robeux, des plaisanteries très fines. C'est qu'il a un petit côté fleur bleue,
et même fleur bleue marine.
Il tape sur son clavier, mais c'est pas violent.
Il tape sur son clavier, mais c'est pas violent.
C'est ça l'esprit gaulois, on se défoule, on se détend.
C'est ça l'esprit gaulois, on se défoule, on se détend.
Faut dire ces derniers temps, c'était un peu frustrant.
Faut dire ces derniers temps, c'était un peu frustrant.
Taper des gilets jaunes alors qu'ils sont tous blancs.
On peut taser, on peut taser.
On peut nasser, on peut nasser.
On peut matraquer, on peut matraquer.
Même si l'IGPN râle un peu, on lui fait des gros yeux. Il sort tranquille, été comme hiver,
il est toujours couvert.
Il tape sur beaucoup de gens.
gens, c'est un geste citoyen.
Il tape sur beaucoup de gens, c'est un geste citoyen.
Qui aime bien châtie bien, et lui, il aime bien.
Qui aime bien châtie bien, et lui, il aime bien.
Comme au gouvernement, il a des copains.
Comme au gouvernement, il a des copains.
Il tape sur beaucoup de gens, de façon, il craint rien.
Et oui, vous avez sans doute reconnu les Goguettes en trio, mais à quatre, qui reprenaient la chanson de Philippe Laville. D'ailleurs, qu'est-ce qui devient, on ne sait pas. Mais bon, la chanson de Philippe Laville, il tape sur des bambous, qui devient, il tape sur beaucoup de gens. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front. Ce soir, nous diffusons en exclusivité un entretien que nous avons enregistré avec l'économiste Paul Rocher, qui a publié aux éditions La Fabrique « Que fait la police et comment s'en passer ?». Alors juste avant la pause musicale, nous démontions avec lui le mythe du manque de moyens. En fait, la police ne manque pas du tout de moyens, contrairement à ce qui est affirmé partout. Et dans le troisième extrait qu'on va écouter ensemble, on va revenir sur la seconde partie de l'ouvrage. Vous avez le titre « Et comment s'en passer ?», qui traite de la manière dont on peut ou on pourrait se passer de la police. Alors il y a un autre volet dans ton livre, parce qu'il y a un titre et un sous-titre, où, ouais, c'est ça, ils ne sont pas mis forcément sur le même plan sur la couverture, c'est « Que fait la police et comment s'en passer ?». Alors c'est comment s'en passer, hein, c'est pas peut-on s'en passer, ou c'est vraiment comment se passer de la police, même s'il n'y a pas de point d'interrogation. Alors déjà, le premier réflexe en tout cas que j'ai eu, c'est de se dire si on se passe de la police, on va se retrouver dans une situation dans laquelle on est déjà un peu, où chacun se surveille. Sorte d'autosurveillance généralisée et de délation, c'est pas bien, il a fait ci, c'est pas bien, il a fait ça. Ça existe déjà, mais, oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en gros, si vous constatez un comportement anormal, les signaux faibles, etc., faut appeler la police pour la prévenir. Bon, s'il n'y a pas de police...
Alors, d'abord sur la délation, alors ça, pour le coup, effectivement, c'est une tendance qui est encouragée par le gouvernement depuis un certain nombre d'années. Surveiller les autres, regarder les autres avec méfiance, briser les solidarités au quotidien aussi par la même occasion. Donc ça, c'est une partie de ce que j'appelle dans le livre l'emprise policière, parce qu'il n'y a pas seulement les moyens, il n'y a pas seulement les effectifs. Le gonflement, en quelque sorte, de l'appareil policier passe aussi par une sorte d'emprise par le bas, où on suggère à la population qu'il faut surveiller son voisin, les gens qu'on peut croiser dans la rue, dans le transport. Donc cette surveillance par en bas, elle existe déjà, elle est fortement encouragée par le gouvernement. Donc ça, c'est une première chose. Mais ensuite, pour retrouver un peu le raisonnement d'ensemble du livre, donc il part du constat de mythe, dit que la police... Elle se porte très bien, elle a beaucoup de moyens. En plus, elle ne lutte pas contre la criminalité. Donc on a en quelque sorte aussi une police totalement surdimensionnée par rapport aux besoins qu'on pourrait supposer. Et ensuite, on peut se demander, bah, qu'est-ce qu'elle fait alors la police si elle ne lutte pas contre la criminalité? Là commence le chapitre historique qui revient sur la raison d'être de la police, qui est donc la répression... de la progéniture du capitalisme, à savoir le salariat. Et donc, partant de là, eh bien, on peut se poser la question, bah, si la police, en réalité, ne joue que ce rôle-là, est-ce que pour une société plus harmonieuse, il ne serait pas plus intéressant de se passer de la police, sans pour autant oublier que, même dans une nouvelle société... libéré d'exploitation, libéré d'oppression, même dans cette nouvelle société-là, ben, il peut y avoir des conflits. Donc c'est un peu ça, cette idée, c'est comment s'en passer et comment gérer du coup aussi la situation, tant l'éventualité d'émergence de conflits, parce que des conflits entre personnes, il y en aura encore.
Mais donc ce serait comment s'en passer hors du capitalisme, une fois qu'on en est sorti.
Alors... Pour développer un peu ce raisonnement sur comment s'en passer de la police, j'ai mobilisé deux exemples récents du XXe siècle, l'un de l'Afrique du Sud, l'autre qui porte sur l'Irlande du Nord.
Ces deux exemples, parce qu'il n'y en a que deux, ou ces deux exemples parmi d'autres ?
Alors, il y a sûrement d'autres exemples. Et ben, quand j'ai fait des présentations du livre, des gens me parlent par exemple du Kurdistan, des sapatistes. Donc, il y a d'autres expériences qu'on peut sûrement mobiliser. Et là, c'est ces deux exemples qui illustrent des choses, mais qui ne sont pas exhaustifs, mais qui me semblent quand même particulièrement importants parce que ces exemples sont des exemples où ce n'est pas juste une niche, une petite partie de la population, mais toute une population qui décide de faire autrement, de contourner la police. Et donc en ça, ces deux exemples me semblent particulièrement intéressants. Et donc, ce qu'on observe dans ces deux exemples, c'est que ce soit dans l'Afrique du Sud de l'apartheid ou dans l'Irlande du Nord, dans la lutte anticoloniale, on a une grande partie de la population qui décide donc de faire en dehors de la police et se pose donc la question de comment on s'organise, comment on gère. Et donc, je donne un peu les détails de ce fonctionnement-là, sans d'ailleurs omettre aussi les difficultés auxquelles on fait face les personnes en Irlande du Nord et en Afrique du Sud. Mais si je mobilise ces exemples, c'est surtout pour en quelque sorte extraire des pistes qui permettent d'envisager une société libérée, et donc aussi libérée de la police. Et une piste qui me semble intéressante dans cette optique-là, c'est le lien organique avec la société. Je m'explique. Ce qu'on observe en Irlande du Nord et en Afrique du Sud, c'est que celles et ceux en charge de la gestion de l'ordre, qui remplace en quelque sorte la police, ce sont des gens qui viennent de la population locale, de la communauté locale, et qui sont donc aussi sensibles aux problèmes et aux difficultés que certains ou certaines peuvent rencontrer dans ce cadre-là. C'est donc des gens qui connaissent bien le terrain, qui sont attentifs aussi à toutes ces spécificités en quelque sorte. Et la manière dont ils exercent la fonction, pas le métier, la fonction de gestionnaire de l'ordre, eh ben, il va être attentive aux difficultés ou aux réalités du terrain. Donc, ce n'est pas du tout la police de proximité qui, elle, vise à s'approprier les savoirs, les liens locaux dans une optique de répression. Non, là, il s'agit tout au contraire de mieux gérer la sûreté de la population, ce qui implique évidemment tout d'abord de venir en aide aux victimes, mais aussi de s'interroger sur les conditions qui font qu'un acte délinquant ait eu lieu. Donc il y a le lien organique avec la communauté locale. Ensuite, il y a une deuxième piste qui me semble intéressante, c'est celle de la rotation. Donc la police, enfin la gestion de l'ordre, n'est plus précisément un métier qu'on remplit à vie, qu'on réalise dans une institution distincte du reste de la société. Non, ça devient une fonction que différentes personnes de la société remplissent à tour de rôle. Donc on est en quelque sorte gestionnaire de l'ordre pour une durée déterminée avant de retrouver pleinement la vie dans la société civile. Et cette rotation a notamment pour avantage de couper l'herbe sous les pieds de toute dynamique d'impunité qu'on observe.
These niggas is pussy, they so flex with China. Rockin' rainbow like that shit was designer. Fuck 'em on a leather recliner. Smudging on my lipstick and my MAC makeup liner. Eating good at the diner. Bar so fucking nice, so you might as well sign her.
What's up, everybody? It's the one and only Miss Chris. You're tuning in Queer Core. Ask Miss Chris. I'm gonna get with you guys in a few minutes, but I'm gonna leave you with Quay Dash in the meantime.
I'm the best at what I do. Y'all bitches watching, y'all copy who? Quay Dash, that BX shit. Black bra with an attitude. I don't fuck with none of y'all. Smoke drink with none of y'all. All I do is count money. Cancun with a honey. Coke, no, stay runny. Good top, call a gummy. Ass top like a bunny. Y'all niggas ain't funny. I'm the best, fuck you talking about. Y'all punk niggas need to walk it out. Hardest dude up in your crew, talk shit, you get slutted out. That's word to my 30 y'all. Pull up in the 730 y'all. Hit y'all niggas with the semi, please forgive me if I fucking never heard of y'all. Hut one, hut two, I don't care what y'all sluts do. Got
Niggas on the plus two and they all take it in the bug too. Bad bitch in the snake skin. Know you hating, you a fake friend. Got me rolling with my seat spin. Niggas trash and they waist spin. These niggas is pussy, they soft like vagina. Rockin' rainbow like this shit was designer. Fuck them on a leather recliner. Smudging on my lipstick and my MAC makeup liner. Eating good at the diner. Boss so fucking nice, so you might as well sign her.
Don't forget, you can always give me a call, 514-448-4013, 54-448-4013.
You know these hating niggas nosy like a nosebleed. Keep it real, keep it trill, sipping OE. Wildin' at the club, dressed and I blow weed. Got this nigga gassed up with a hard dick, but he ain't really into me being a hard chick. But when you fucking with the boys, face the hardships. On my pink Friday in the starships. Call me China Doll, feeling like I'm Fox.